T'as soif, Miguel ?
Ouais, un petit peu, ouais.
Ça fait 200 ans que Clisson est une jolie ville au cœur du vignoble nantais. Aujourd'hui, c'est toujours une jolie ville, mais c'est aussi la ville du Hellfest. Improbable mais vrai, le festival a réussi à faire se rencontrer et s'apprécier deux mondes qui, a priori, n'avaient pas grand-chose en commun, les Clissonnais et le public métal. Aujourd'hui, le Hellfest, c'est une grosse machine. Quand le festival se tient, les retombées économiques sont estimées à 22 millions d'euros. Et une des clés de cette réussite, c'est que l'équipe du Hellfest a réussi à embarquer dans le projet les acteurs de l'économie locale. Et ici, un des piliers, c'est la vigne. Alors si vous vous disiez que ça fait longtemps qu'on n'a pas bu un verre de muscadet, avec modération, évidemment, c'est aujourd'hui que les choses changent, parce qu'on a rendez-vous avec Fred. Fred, c'est un vigneron. C'est un des vignerons qui fabrique la cuvée spéciale Hellfest. Il y a plusieurs liens entre le Hellfest et les vignerons de Clisson. D'abord, certains louent des terres au festival. Ensuite, il y a un bar à muscadet sur le site. Et enfin, ils produisent pour chaque édition la cuvée Hellfest. Ce sont des bouteilles collector avec une étiquette aux couleurs du festival. D'ailleurs, les deux tiers de cette cuvée sont achetés pendant le festival. Ça fait partie des souvenirs que les festivaliers rapportent chez eux. Comme il y a plus de 70 nationalités différentes au Hellfest, ça veut dire que notre muscadet voyage partout dans le monde. Salut Fred !
Salut ! Bon, t'es trouvé facilement ?
Impeccable.
Bon, bah nickel.
Le GPS nous a mené jusqu'à toi.
Jusqu'au Grand Air.
Ouais.
Formidable. Bon, voilà, vous voulez prendre un café pour commencer ?
Ouais.
Ouais.
Ah, c'est pas mal ?
Ah, c'est super.
C'est un bon début.
Fred Loharet, grand gaillard d'une quarantaine d'années, grand sourire, c'est un des vignerons clissonnais partenaires du festival. Il nous accueille dans sa cave, dans son espace de vente et de dégustation, là où il expose ses cuvées, dont la cuvée Hellfest.
La première année, il n'y a pas eu de cuvée Hellfest. On ne savait pas comment ça allait se dérouler, on n'a pas décidé de faire une cuvée. Donc on a commencé avec le Hellfest 2007, c'est celle-là. Et tous les ans, on en a fait une. Là, il y en a une qui dénote un peu, parce que c'est pour le Hellfest 2012 de mémoire. Et la dernière qu'on a faite, c'est en rapport avec Hellfest l'année dernière, Hellfest for Health.
Voilà, donc c'est Hellfest pour la santé.
Ouais, voilà, ouais, c'est ça.
Parce que le Hellfest, c'est aussi c'est bon pour la santé.
C'est très bon pour la santé.
Et celle-là, elle est vendue, donc au profit du CHU.
Du CHU, ouais, parce que
Fred, il nous annonce direct qu'il est fan de Michel Sardou. On l'avait pas vu venir.
C'est quoi cette affiche là ?
Là.
Sur un mur, il y a un truc hyper chelou. C'est une parodie d'affiche de concert de Michel Sardou avec Fred à la place de Michel.
Enfin, il était 3h30 du matin, lundi matin. Il n'y avait plus personne sur le site, sauf les bénévoles et toute l'équipe du bar. Hein. Je suis un grand fan de Michel Sardou. C'est pour ça. Il avait toujours dit qu'on chanterait de Michel Sardou sur une scène du Hellfest, on l'a fait. C'est marrant parce que tous les techniciens étaient en train de démonter. Quand je chantais, il y en a un qui m'a amené un micro. Tiens, ça pourrait te servir, Michel. Merci. Il était branché, mais bon.
Ah oui, t'étais pas sonorisé.
Ah non, non, heureusement que non, parce que là, le festival aurait fait faillite, je pense. Pour être vigneron, il faut faire plusieurs métiers. Hein. Il faut savoir faire le vin, enfin, savoir faire la vigne, faire le vin. Il faut être mécano, il faut être commercial, il faut être transporteur routier, parce qu'on en fait des kilomètres avec le camion. Et puis surtout, il faut être au bureau pour une journée par semaine, mais presque, hein, avec tous nos papiers, tout ce qu'il y a à remplir, la traçabilité, la facturation, les mailings, tout. Ouais, c'est du boulot. On finit dans les vignes, là.
Allez.
On commence par les vignes, après on ira sur l'Hellfest ou...
Le domaine du Grand Air, c'est une affaire de famille. Une exploitation qui se transmet de père en fils. Le premier, c'était l'arrière-grand-père de Fred, en 1892. Et depuis, les Loirets produisent du vin, principalement du muscadet.
Un jour, on m'aurait dit, tu seras responsable d'un bar avec tes collègues. Vous allez passer 18 000 litres de muscadet dans un grand festival où il y a 200 000 personnes. Ah non, n'importe quoi. puis voilà, quand on vient, on se prend pour la tête. Hein, c'est vraiment, pour nous, les vignerons, c'est un échappatoire. Enfin, c'est génial. Hein. On est sur une période, troisième week-end de juin, on est en pleine floraison des vignes, plein palissage. Donc beaucoup de travail manuel. Donc on y passe beaucoup de temps les vignes. Et là, on est vraiment 3 jours. Hein. Voilà, on laisse notre travail de la vigne de côté. Puis, lundi, des fois, c'est dur. On faut retourner à la vigne. Ah, t'es bien, voilà.
C'est le site du Hellfest, là, justement.
Oui, oui.
C'est
oui.
Ça
voilà. Regarde la rue.
C'est la Warzone, là. C'est la Warzone, ça.
Ah ouais, carrément.
Ah oui, non, mais je vous dis, on est vraiment à la porte. La maison, elle est à la cave à 200 mètres, là. Nous, on y va à pied. On distingue le bar à vin juste entre les deux arbres, là-bas. Derrière le Mirador.
Ah, en fait, quand t'as fini, tu peux rentrer chez toi en rentrant.
On évite, parce que le lendemain, il y a du boulot, quand même. Généralement, on finit nos journées vers 3-4 heures du matin, enfin, nos nuits. Et on reprend à 8h, donc ouais, faut éviter de rentrer en rampant. Ouais.
On va quitter 2 secondes le rock'n'roll et les flammes de l'enfer, parce que là, on est au milieu des vignes, et que c'est pas tous les jours qu'on est avec un vigneron, alors autant en profiter pour l'écouter parler de son vin.
C'est le meilleur vin blanc sec au monde.
Ouais, alors ça, je suis d'accord.
Non, le muscadet, c'est le seul vignoble en France avec un monocépage en appellation, en blanc, donc qui est le melon de Bourgogne. C'est un vin qui est frais, sec, fruité, qui va s'associer très bien avec les fruits de mer, mais qui s'est décliné en plusieurs appellations. Soit la commune de Clisson, on fait le cru qui est un des plus connus, on va dire, le Clisson, qui dénote complètement d'un muscadet sur lit, et c'était le but aussi. Ce seront des vins plutôt pour aller sur des poissons en sauce, voire des fromages aussi, ou même à l'apéritif. Ou juste entre amis, c'est bien aussi.
Je vais vous faire un petit point explicatif sur le muscadet. Fred parle de muscadet sur lit. La lie, c'est le dépôt qui se crée au moment de la fermentation. Et le petit truc en plus du muscadet, c'est qu'on l'élève sur ses lits avant de le mettre en bouteille. C'est comme pour faire un bon groupe de rock, faut qu'il y ait un peu de dépôt suite à la fermentation. Ouais, sinon, ça sonne pas.
Puis on a quand même le retour du gros plan aussi. Le gros plan revient en force.
Alors le gros plan, tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Eh bien, le gros plan, c'est un vin blanc, sec, fruité. C'est le deuxième meilleur vin blanc sec au monde, après le muscadet. C'est les vignerons de gros plan, ils vont dire « Mais non, c'est le meilleur devant le muscadet. » Non, c'est donc c'est cépage majoritairement folle blanche. Donc c'est un vin un peu plus sec, à une maturité un peu plus tardive que le muscadet. Un peu moins fort que le muscadet aussi. Alors là, par contre, tu fais un plateau de fruits de mer, ça, c'est le top. Ça qui est intéressant dans le métier de vigneron, c'est que c'est jamais la même chose. Il y a des années qui nous sourissent comme l'année dernière, où on a fait des très bons vins avec une récolte correcte, et des années qui sourient un peu moins, du coup, c'est mieux.
Ouais, mais souris, c'est mignon,
c'est pas mal. Souris, c'est pas mal.
Mignon, quoi, c'était mignon.
Il y a des souris un peu moins.
C'est très sympa.
Et comme cette année où on gèle. Bon, après, le gel, ça ne nuira pas sur la qualité. Hein. Si on a une belle saison, on va faire des vins exceptionnels aussi. Mais,
oui, voilà. Mais il y en aura moins.
Ah, forcément, il y en aura moins, ça en est sûr.
Mais bon, ça tombe bien, vu qu'il n'y a pas de métalleux cette année pour en boire.
Il y en a toujours. Parce que même sans Hellfest, les métalleux boivent du muscadet. Hein. Attention. Nous, on en vend dans toute la France du muscadet et on a beaucoup de clients grâce au Hellfest. Bah, des métalleux qui viennent de toute la France au Hellfest, on fait connaissance. Le lundi matin, avant de repartir, ils passent à la cave et on les revoit dans nos salons, nos foires qu'on fait dans toute la France. C'est ça qui est agréable aussi.
Même si depuis 2 ans, le Hellfest est annulé à cause de la pandémie, certains font quand même le voyage jusqu'à Clisson, mais comme une sorte de pèlerinage. Et forcément, ils en profitent pour aller boire des coups chez Fred.
Là, cette année, le week-end du Hellfest, je vais être plein comme d'habitude, plein en termes de nombre de festivaliers à la cave. Parce qu'on en reçoit entre 40 et 50 des copains, des clients, où ils plantent leur toile de tente dans les prés en bas de la cave. Ils ont décidé cette année de revenir faire le Hellfest ce week-end-là. S'ils peuvent bouger, ils vont le faire.
Donc comme l'an dernier, il y avait...
L'an dernier, j'avais eu du monde aussi, ouais. C'était une trentaine, on débarque. Bon, ça s'est très bien passé.
Ces rencontres, elles se font pendant le festival. C'est la magie du royaume du Muscadet. L'histoire, elle débute dès la première édition, en 2006. Ben Barbeau est allé voir les vignerons parce qu'il avait besoin de terrain, notamment pour le camping et les parkings. Les vignerons, ils ont dit oui, contre une visibilité du muscadet sur le site.
Comme c'est pas lui qui gérait tout ce qui était boisson et restauration, il a imposé à ce partenaire-là qu'il nous prenne du vin, donc on a fourni un peu de vin, mais c'était dérisoire, quoi. Si on a passé 300 litres la première année, un truc comme ça. Et la deuxième année, il ne travaillait plus avec ce partenaire-là, donc il nous a dit, bah, si vous voulez, les gars, je vous mets un bar à vin. Très bien. 3 mètres par 3, avec un toit en ressort, on va dire. Donc 2007, ça mouille à plein temps.
Ah ouais, raconte-moi cette
année. On était en bottes, à longueur de journée, on était dans la boue, mais c'était horrible, mais... C'était la plus belle, le plus beau Hellfest, je pense. Parce que c'est vraiment là que le Hellfest s'est fait accepter par tous les clissonnais. Parce que, enfin, on a eu beaucoup de solidarité entre clissonnais et festivaliers. Pauvres festivaliers qui étaient tout boueux, les clissonnais, allez, rentre dans le chaud, viens prendre une douche, un café. Et ça, c'était génial. Et là, ils ont découvert le muscadet. Et ben, franchement, ouais, ouais. C'est là qu'est né l'esprit Hellfest à Clisson.
Pour le Hellfest, les vignerons de Clisson produisent deux types de muscadet. Un qui est embouteillé et vendu dans leur cave, hein, donc c'est la cuvée Hellfest, et un autre pour le bar à muscadet sur le site du festival.
Alors on gère le bar à vin, on vend notre vin au Hellfest, Hellfest revend au verre, et c'est nous les bénévoles qui servons le vin. Quoi de mieux qu'un vigneron pour parler de son vin?
Bon, alors retour sur le site et retour sur la Warzone.
On y vient souvent.
Ouais.
Ah oui. Quand on a accueilli des groupes en visite, on les emmène souvent ici aussi. On leur fait faire une petite rando dans les vignes. Généralement, j'attends avec un petit verre de muscadet au bar. Ouais. Ils sont contents.
Vous vous souvenez de Valérian, notre guide métalleux? Quand on a visité le site du Hellfest avec lui, on a évidemment fait un arrêt au bar à muscadet.
Un gros tonneau géant dans lequel on rentre. Le zinc, lui, du bar, c'est lui-même une grosse tonne, un gros tonneau. Les pieds de la structure sont des barriques de vin. Les appliques des lumières sont des barriques éclatées. C'est-à-dire qu'on est presque dans le premier degré, mais en tout cas, tout tourne autour du vin. Et on est vraiment dans l'univers du vin qui est complètement différent de ce qu'on avait tout à l'heure dans les containers, qui est plus métal, etc. Et les vignerons ici, c'est assez intéressant de voir le rapport qu'ils ont au site. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qui font vivre le site, et qu'on ne voit pas, et qui sont essentielles pour le site, qui sont sous nos pieds. C'est des tuyaux, des pipelines, qui distribuent deux choses essentielles au site. Un, la bière. Deux, le fuel. Il ne faut pas se tromper quand on sert. Ça, c'est les deux éléments phares pour le festival. Donc effectivement, au royaume du métal, la bière, elle est reine. Néanmoins, donc avec cette volonté de mettre le muscadet ici, si on met en perspective un peu les choses, on se dit, ok, c'est pas mal, c'est local, c'est normal, mais surtout pour les vignerons, c'est pas une question de chiffre d'affaires ou de vouloir tout d'un coup qu'il y ait un nouveau pipeline qui distribue du muscadet, c'est pas du tout ça. En fait, si on regarde un peu le sociologiquement qui vient en tant que festivalier, qu'on se rend compte qu'il y a plus de 70 nationalités différentes, des gens qui sont, pour certains, de classe assez aisée, etc., ben c'est un merveilleux salon du muscadet, quoi. C'est-à-dire que là, en termes de com, on a l'occasion de faire découvrir le muscadet ou de promouvoir en tout cas le muscadet à plus de 70 nationalités différentes. Pourquoi s'en passer, quoi ?
Et avoir une vitrine comme ça, il n'y a pas un vignoble qui le fait. Hein. Enfin, moi, je trouve ça formidable, quand même. Accueillir 160 000 personnes, 180 000, en 3 jours et leur mettre une vitrine de 300 mètres carrés autour des vins de Nantes, ouais, c'est top. Hein. Nous, quand on a commencé, c'était un tout petit bar. Il a grossi en fonction du festival aussi. Et l'année d'après, on a eu un bar un peu plus grand, jusqu'en 2011, où on a eu vraiment le bar de 300 mètres carrés.
Donc celui-ci ?
Non, au départ, c'était une tente, juste une toile de tente. Et après, depuis, on a le bar à vin en dur, en bois, qui représente un tonneau.
Oui, tu nous fais visiter.
Ouais, là, c'est l'espace vente. Le comptoir, avec la petite terrasse où Là, on a toutes des plein de jeux de lumière, plein de décorations sur à l'intérieur du bar, au-dessus aussi. On a une belle enseigne bar à muscadet qui est juste là. Et juste derrière, on a la partie technique où on range notre semi-frigo.
Au début, j'avais pas compris, mais le semi-frigo dont il parle, c'est une semi-remorque réfrigérée. Faut vous imaginer deux tonneaux gigantesques. Dans l'un, il y a la partie publique, donc le bar. Et dans la partie technique, ils font entrer la semi-remorque réfrigérée pour stocker les 18 000 litres de muscadet qui seront servis pendant le festival. C'est un sacré boulot.
On vient, faut qu'on soit là à 9h, parce qu'à 9h30, il n'y a plus aucun véhicule sur le site. Donc on vient là à 9h, on recharge du vin s'il y a besoin. On check le bar, on remet les pattes en service, les moyens de paiement. On check le bar, voir s'il est propre, parce qu'avoir un bar propre, c'est quand même beaucoup plus accueillant qu'un bar dégueulasse. On voit si tout est en ordre, si le frigo tourne bien, puis on prépare nos verres, nos pichets, voilà. Ça, c'est le boulot du matin. À 10h, on a notre premier client, parce que là, dès 10h, il y en a. Et donc, après, on va dire de 10h à 17h, en gros, c'est une petite routine tranquille. Le gros du service se fait entre 18h et 2h du mat. 2h, 2h30, fermeture des bars. On a à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de nettoyage, puis après... Soit on est courageux, on va faire l'after, chez le collègue, chez notre collègue. Quand il nous voit arriver, il se dit « Ah, je suis pas couché, moi, non plus. » Ou soit on rentre chez nous, se reposer un petit peu. Le lendemain, faut remettre ça. Et ça nous manque maintenant. Franchement, on s'y fait et ça nous manque. L'année dernière, il n'y a pas eu de Hellfest, allez, à la peau... Ça nous manque vraiment. Déjà, rien qu'au niveau musical.
T'écoutais quoi, toi, comme musique quand t'étais jeune ?
On écoutait du AC/DC, du Metallica, enfin tous les grands groupes connus. Quoi. Du heavy metal, quoi. C'était du metal tout doux. Là, on écoute des musiques un peu plus hard, un peu plus...
Il est sympa, Fred. Mais alors, le problème avec lui, c'est quand il commence à parler musique, bah, Sardou n'est jamais bien loin.
C'est un petit peu un métalleux, Michel. Hein. Il y a des riffs de guitare dans certaines... Dans certaines de ses chansons, on ne pas comme ça. Vous savez que c'est dans la chanson, dans son clip de l'an 1000 déjà, il fait brûler des crucifix sur scène.
Arrête.
Ah ouais. Et son concert de 1989 à Bercy, il y a des crucifix qui brûlent sur scène. Et là, il y a des beaux riffs de guitare dans cette chanson-là. Ouais.
Et ça fait comment? Je vois pas ce que c'est cette chanson, l'an 1000.
Les cathédrales. Non. Oh.
Non, mais je
les crucifix, le vaisseau... Non, il faut pas sortir du Sardou, j'avais promis à ma femme de ne pas sortir du Sardou. T'écouteras.
Oui, il va sortir dans le
temps. Ah, bah obligé.
Bah, c'est pas grave. J'assume. Les peuples fous répandent la fureur et la haine.
Comme l'a dit Valérian, on ne boit pas que du muscadet au Hellfest, on boit surtout de la bière. Et la bière, on en trouve en quantité au supermarché d'à côté. Prends ton cabas, ta liste de courses, c'est dans le prochain épisode.